attendre peut-être deux secondes. Et là, les visages, je vais faire un calme. Donc aujourd'hui, on va parler du non. Pourquoi dire non aux enfants, qu'est-ce que ça leur apporte. Et je vais aussi aborder pourquoi ça nous est difficile aujourd'hui de dire non aux enfants. Il y a 70 ans, on entendait Françoise Zolto à la radio dire des choses qui aujourd'hui peuvent nous paraître de grandes bêtises, parce qu'elle mettait un poids énorme sur le fait d'écouter les enfants, de voir qu'est-ce qu'ils ressentent, de prendre du temps à cette écoute. Elle allait contre finalement quelque chose qui était, qu'on aurait pu entendre comme de l'autorité. Alors c'est une impression. Françoise Zolto, elle présentait quelque chose qui était le développement de l'enfant et l'importance des parents. Mais à l'époque, ce qui était important de dire aux parents, c'est attention quand vous éduquez, n'ayez pas une éducation violente et humiliante. Pour l'enfant, ça fait des dégâts. On était dans un contexte où ce qu'on trouvait comme trouble de l'enfant étaient des troubles névrotiques, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, des troubles souvent dus à une éducation autoritariste. Les choses ont changé, la mode a changé, et aujourd'hui dans les médias, on parle d'enfants rois, on parle d'enfants tyrans, il y a un grand retour de la question de l'autorité. Alors ne confondons pas, le développement de l'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas changé, c'est toujours le même. L'enfant a toujours besoin d'être écouté aussi, mais il a besoin d'une autorité qui n'est pas d'autoritarisme, de noms qui sont des noms éducatifs, des noms structurants, des noms qui viennent lui permettre de grandir. Alors, quand je disais enfant roi, il faut être un petit peu polémique pour démarrer. Je dirais que parler d'enfant roi, c'est une tautologie, c'est un pléonasme. Parce que finalement, comme on l'a vu tout à l'heure, au début de sa vie, l'enfant n'a même pas encore conscience qu'il a un moi. Il n'a pas encore conscience d'être à lui, de son corps bien défini, dans une enveloppe corporelle. Tout ça, c'est encore dans le flou. C'est encore l'indistinct. Il va l'apprendre. Il va l'apprendre par les étapes qu'on a vues, donc le sevrage, la séparation, la prise de conscience au moment du stade du miroir, du fait qu'il n'est pas rattaché de manière un peu magique à sa mère, que lui-même est un. Donc ça provoque une angoisse. Quelle solitude d'un coup de découvrir, voilà, je suis. Une fois que cette angoisse est digérée, une fois que ça s'est passé, alors d'exister, d'être à soi et d'être capable, ça devient jouissif. Ça devient sacrément sympathique. D'autant que ça vient en même temps que toutes ces capacités musculaires, de toutes ces potentialités nouvelles, pouvoir grimper, sauter, courir, faire sourire maman en faisant sourire charmant et puis faire s'arracher les cheveux quand on souhaite. Quel pouvoir! Comment l'enfant peut-il ne pas se sentir tout puissant alors qu'il ne savait rien faire et que maintenant il a vraiment senti pouvoir tout? Pouvoir tout sur lui-même, pouvoir tout sur l'autre. Alors, de son point de vue, il est le centre du monde. Il est le roi du monde. Il dit non. Il dit non à ce qu'on lui propose. Quelque part, il s'affirme. C'est son nom, N-O-M, qui vient nous dire aussi en nous disant non. C'est un besoin de s'affirmer. De nous dire aussi à nous, j'existe. Je ne suis pas ton désir, je ne suis pas ce que tu désires de moi. Je suis pour moi, j'ai mes désirs. À ce monde-là, c'est un monde où l'autre n'existe pas encore vraiment. Il est dans la toute-puissance, et en face, la mère, les camarades, tous peuvent être potentiellement dans cette même toute-puissance. On est dans un rapport binaire, un rapport de tête-à-tête, de face-à-face. Il n'y a pas de médiation possible. On est dans la loi du plus fort. À ce moment-là, il n'est pas capable de reconnaître. On lui dit non, quand on lui pose un interdit, une limite, Il n'est absolument pas capable de reconnaître le bien fondé de ce nom. On vient entraver sa jouissance, on vient entraver sa volonté, son désir. Alors ça frustre. Et cette frustration, eh bien, ça fait sacrément mal. Ça l'énerve. Ça peut le rendre dans une colère noire. Ça peut aussi rendre triste. Ça peut donner le sentiment d'être impuissant face à l'autre tout-puissant. Quel enfant serait d'accord avec le nom qu'on lui porte à ce moment-là? Il ne peut pas s'éduquer lui-même. C'est quelque chose qu'on va devoir lui donner contre sa volonté à ce moment-là. Parce que pour lui, être heureux, c'est avoir du plaisir dans l'instant, tout de suite, sans limite. Hein, c'est être dans un monde facile, presque magique, où ce qu'il veut, ça vient, c'est là maintenant. Un monde confortable. Donc c'est notre tâche, à nous adultes, à nos parents, d'aider notre enfant à sortir de cette illusion, que ça c'est possible. Que de satisfaire immédiatement son désir, quel qu'il soit, c'est possible. Ça va être à nous, avec bienveillance, de l'accompagner. Sans détruire finalement ce quelque chose qui est là présent dans ce sentiment de toute puissance. Hein. Il y a quelque chose du narcissisme, il y a quelque chose de cette base d'estime de soi dont on aura besoin plus tard. Hein. Je crois en moi, alors je vais faire quelque chose. Ça vient aussi de là. Donc on va faire attention, on va poser sans blesser. On va poser sans détruire l'être, sans détruire la base narcissique hein, qui va servir toute la vie. On peut reconnaître que la frustration, ça fait mal. Oui, cette sucette que tu voulais, tu la voulais vraiment, et je sais que tu n'es pas content. Tu as le droit de te rouler par terre et de crier, mais ça ne changera rien, j'ai décidé que tu ne le ferais pas. C'est pas évident, tu veux dire. C'est pas évident à tenir et c'est pas forcément à faire à chaque fois, mais le message est un petit peu là. Qu'à la fois cette colère, elle est justifiée et qu'elle puisse s'exprimer un temps de manière fracassante, pourquoi pas? Ça n'a pas duré. Petit à petit, l'enfant va trouver des trucs qu'on va lui donner sans même nous en rendre compte pour gérer la frustration. Au départ, c'est la colère qui va sortir. Et on peut l'accompagner dans le fait que cette colère, ben, elle peut être légitime et qu'il peut apprendre à l'exprimer autrement. Et que petit à petit, ben, il pourra aussi déplacer les choses. Face à la frustration, si on regarde nous-mêmes, nos propres vies, hein, quand vous allez chez votre patron, vous demandez une augmentation, et puis vous dites, non, c'est la crise, c'est vraiment pas possible. On réagit de manière bien différente. Hein. Selon là, on peut se fâcher, dire mais je m'y allais bien, ça fait 10 ans que vous me la promettez, cette augmentation, il n'y a pas de raison, la crise n'est pas une excuse, taper du poing sur la table. On peut prendre la colère en nous, la garder, et puis y rentrer à la maison, se décharger sur la famille. Hein? On gère tous plus ou moins bien cette frustration. On peut aussi se dire, bon ben d'accord, pas maintenant, c'est pas maintenant mais plus tard. Avoir entrer en nous cette capacité à l'attente. On peut déplacer nos désirs. Bon, ben, si ici il n'y a plus de possibilité d'évolution, je peux aller voir ailleurs. Tout ça, on apprend sans nous en rendre compte à l'enfant. Toutes nos propres techniques pour gérer nos frustrations, on l'apprend à l'enfant. Et quand on lui dit non, et qu'on va gérer sa colère, qu'on va l'accompagner dans cette colère ou dans cette tristesse, on va lui donner quelques-uns de nos petits trucs. Et c'est grâce à ça que l'enfant va pouvoir, au fil du temps, limiter ce sentiment de toute-puissance sur soi et sur autrui. Je ne peux pas tout sur l'autre. Je ne peux pas taper ma mère. Comme on voit de plus en plus fréquemment, hein, des enfants qui viennent, qui ne sont pas contents, ils viennent taper. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas tout sur moi-même. Ces colères fracassantes où l'enfant va jusqu'à se taper la tête par terre. de mettre des limites à ces choses-là. Et quand je dis se taper la tête par terre, c'est que c'est vraiment de plus en plus fréquent que l'enfant, pour avoir quelque chose qui s'oppose devant lui, soit obligé d'aller se faire mal pour que l'adulte réagisse. Pour que l'adulte, sur le cas, à ce moment-là, enfin le tienne et l'empêche de se fracasser la tête par terre. Des fois, il faut nous bouger un petit peu et l'enfant vient chercher ça, vient chercher cette confrontation, cette opposition, cette affirmation de lui-même face à nous. Donc, donnons-lui avant qu'il en ait à se faire mal pour nous faire réagir. Et alors, il saura. Il saura se protéger lui-même sans qu'on ait à chaque fois à redire les règles, et il saura protéger l'autre. Alors, se protéger lui-même, c'est cette autonomie dont on parlait ce matin, la capacité à se prendre en charge de soi-même. Et c'est quelque chose qui n'est plus du tout évident aujourd'hui. Vous voyez que dans les parcs de jeux, il y a encore 15-20 ans, on trouvait des toboggans qui faisaient 3 mètres, qui avaient plein de gravillons autour, avec en plus des bosses et des rebords absolument pas sécuritaires. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça dans les parcs de jeux. On trouve des petits toboggans taille d'un adulte pour que la maman ou le papa puisse tenir l'enfant de l'autre bas du toboggan pour qu'il n'y ait surtout aucun accident. On est dans une société aussi qui propose de protéger l'enfant à sa place, qui propose de lui faire courir le minimum de risques. On parlait de risques en tant que danger, mais aussi en tant que chance, c'est aussi la chance qu'on enlève un petit peu ces derniers temps aux enfants. On propose de mettre des cache-prises pour qu'ils ne mettent pas les doigts dans la prise, plutôt que de lui dire non et de lui apprendre à ne pas le faire parce que ça lui ferait du mal. On cache les produits ménagers pour qu'ils ne les voient pas. Mais selon le cas, ben, ça ne pourra donner envie, et quand il y accédera, s'il n'a pas appris à s'en protéger lui-même, le désir sera là, le désir d'aller franchir l'interdit, d'aller voir là où ce n'est pas autorisé, où ce n'est pas bon. Alors là, en disant ça, j'ai à ouvrir une autre porte. Expliquer le non. Alors oui, il s'agit d'expliquer. Mais expliquer le non, ça ne veut pas dire blablater. Alors là, en tant que psychologue, j'ai une petite anecdote personnelle à vous raconter. Moi, j'ai expliqué le nom à ma fille. Là, je lui ai expliqué. Jusqu'au jour où elle me dit, où elle me fait du moins comprendre, qu'il n'y avait pas pire punition que mon blabla. Que finalement, cette façon de répéter pour la centième fois pourquoi je dis non à ça, c'était du rebâchage. Donc, de dire non, oui, mais ne les soumettons pas, nos enfants. Ils ont besoin de comprendre. Ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui leur tombe dessus. Mais ils n'ont pas besoin qu'on leur rabâche. Alors tout ça, dire non, c'est pour quelque part leur empêcher de rester à la place de roi. De rester tout seul sur leur trône, aux prises avec leurs pulsions, aux prises avec, emprisonnés par leur désir tout puissant. Dire non va leur permettre de s'humaniser, d'entrer en société, d'être avec les autres et de découvrir l'autre comme un être à la fois semblable et différent. Ils vont pouvoir trouver leur place dans l'ordre des générations, dans l'ordre des sexes. Par exemple, quand on va dire non pour la présence de notre enfant dans le lit. Alors, on pose souvent la question pour les familles monoparentales ou même pour des familles où le papa travaille moins toute la semaine et revient seulement le week-end. Cette place dans le lit, pourtant, elle est vide. Elle a l'air vide. Mais non. Pour les femmes qui sont seules, cette place est quand même toujours occupée. Même si, par une histoire de vie, elles n'ont plus envie pour un temps d'avoir quelqu'un qui occupe cette place. Cette place pour l'enfant, elle n'est pas vide. Elle est occupée et ça n'est pas la sienne. Alors l'exemple du lit est souvent le premier exemple qu'on donne, mais on va voir de plus en plus fréquemment dans les familles que la place à table, elle est prise de la même manière. Et quand à table, le couple n'est centré que sur l'enfant, quand finalement l'enfant est en place de partenaire de l'un ou de l'autre, c'est exactement la même chose qui se passe. Quand au lieu de parler ensemble, entre adultes, on ne parle plus qu'avec l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour nous, hein? Où est-ce qu'on en est au niveau du couple, hein, quand on met l'enfant au centre de tout? Alors la frustration, elle va aussi permettre à l'enfant de découvrir le manque. De pouvoir dire « Maman, je m'ennuie ». Parce que cet ennui, il va devoir en faire quelque chose lui-même, tout seul. Parce que cette frustration, il va pouvoir en créer quelque chose qui s'appelle le désir. À partir du manque, on va pouvoir exister comme être de désir. Alors que sans manque, il n'y a pas de désir. Les enfants qui ont été coulés, qui ont tout reçu, on les retrouve arrivés à l'adolescence, et surtout en tant que presque adultes, à ne pas savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Alors, pas forcément toujours de manière aussi catastrophique que ça amène à des idées suicidaires, mais simplement à une errance. Il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de désir parce que finalement, il n'y a pas eu l'occasion de s'en créer. Tout a toujours été là. On voulait un portable, il y a eu un portable. On voulait une mobylette, il y a une mobylette. On a voulu une voiture, on a une voiture. Finalement, sans grands efforts, sans long temps de manque, donc que vouloir. On a voulu faire ce type d'études, il n'y avait pas d'opposition. On voulait faire artiste, peintre, pas d'opposition. Finalement, sans en venir à la caricature d'il y a 50 ans, où mon fils, tu seras médecin, enfin c'est tout, ce type de désir des parents permet au minimum à l'enfant de s'opposer. De s'opposer et du coup de trouver où est son désir. Parce qu'il y a un minimum à combattre contre le désir de l'autre, du parent. Alors ce n'est pas une place agréable. Avec le parent, on n'a pas une place qui va nous combler, nous satisfaire. On fait aujourd'hui des enfants, souvent les désirant, au moment où on les a voulus. Et on en attend quelque chose d'une harmonie familiale. Or, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Et notre place, en général, se résume assez vite à être, pour l'enfant, un vieux con. Excusez-moi pour l'expression. Cette place, on n'a pas toujours envie de la voir, mais c'est pourtant vers là où on va, pendant toute l'éducation de l'enfant. Et l'enfant reviendra vers nous dire que, ben non, on n'y était pas, une fois qu'il sera vraiment parti. Faire sa vie, une fois qu'il aura trouvé qui il est. Avant ça, on a un petit peu apporté cette place, pas très agréable. La place des fois de punching ball, hein, pendant la période écolaire, vers les 3-4 ans, pendant la période d'adolescence, à être celui qui dit non, celui qui pose des limites, celui qui n'est pas d'accord avec tout. Et c'est comme ça, finalement, en nous montrant limitant, mais aussi limité, que l'enfant va pouvoir petit à petit nous mettre de côté en tant qu'adulte idéal et se découvrir en tant qu'adulte, pas du tout tout puissant, imparfait, mais tout à fait valable. Alors j'ai commencé à aborder un peu l'adolescence. Hein. On est là dans un mécanisme où il ne s'agit surtout pas d'être le parent parfait, conciliant, qui évite les conflits. Où l'enfant à ce moment-là, il a un besoin essentiel de nous trouver dépassés. De nous trouver pas de sa génération, pas aussi bien que ses camarades. Il a besoin de se séparer de nous, de se séparer de l'idéal qu'on constitue et qu'il étoufferait si cet idéal restait en place. Alors, en tant que parent, et de la même manière que le petit de 3 ans peut vous dire « Maman, t'es méchante ». Papa, je t'aime plus. L'adolescent va nous dire des mots très durs, et encore plus que le tout petit, il va venir en général mettre le couteau dans notre plaie, là où nous sommes fragiles, là où nous avons des doutes sur nous-mêmes. L'adolescent va venir et va venir nous dire ah ben là, toi tu as une faille. Et nous, face à ça, on a besoin de tenir. On a besoin d'entendre que cette faille, finalement, on l'a acceptée. Que nous sommes des adultes qui avons réussi à vivre avec notre faille, avec notre imperfection, avec notre toute-puissance détrônée. Et que non, on ne détient pas toujours la vérité. Ainsi, l'enfant, l'adolescent, va pouvoir se découvrir en tant qu'un adulte valable, en tant qu'un adulte tout aussi bien que nous, en passant des fois par l'illusion qui sera meilleure. Et c'est une bonne illusion. Mais si nous, on s'écroule à ce moment-là, si nous, on s'écroule, alors c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire tomber l'idéal sans le casser totalement. Alors l'enfant va essayer de vous protéger, va essayer d'arrêter de venir chercher votre femme pour vous laisser un minimum sur votre piédestal de parent. Et quelque chose ne pourra pas se passer. Donc ne nous écroulons pas en tant que parents quand l'enfant vient nous dire « Maman, je t'aime plus. Papa, t'es méchant. » Et de la même manière à l'adolescence, quand il vient découvrir nos failles et nous les envoyer. Même si à ce moment-là ça fait mal, ça ne le concerne finalement pas. Si on a envie de retravailler quelque chose, on peut le faire, mais pas avec l'enfant. Alors tout à l'heure, j'ai démarré avec l'enfant tyran, l'enfant roi, finalement en disant que ça a quelque chose d'une étape normale, mais quand cette étape dure, s'éternise, quand l'enfant n'en sort pas, c'est qu'il y a quand même un souci. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un souci dans la société en général, quelle que soit la bonne éducation qui a essayé d'être donnée par les parents. Parce que, est-ce que c'est la faute des parents qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de difficultés, beaucoup plus qu'à une certaine époque, à supporter la frustration, à supporter le non, à supporter l'autorité et à respecter l'adulte qui est censé la détenir en devant. Est-ce que c'est la faute des parents? Est-ce que c'est la faute des pères qui ne seraient plus présents? À mon avis, les parents d'aujourd'hui ne sont pas pires que ceux d'hier. Les parents aiment leurs enfants et ont envie de leur donner une éducation, la meilleure qu'ils pensent pouvoir leur donner. Ils ont tout autant fier le désir de bien faire. Alors, est-ce que ce seraient les enfants qui vont changer, une mutation biologique? Je ne crois pas non plus. Par contre, en sortant un petit peu de la psychologie, j'aimerais poser une hypothèse d'une société dont les valeurs ont changé très très rapidement et où on a aujourd'hui de manière urgente à nous situer par rapport à ce changement de valeur. Il y a encore peu de temps, il y avait des règles, communément admises, qui pouvaient être d'ailleurs très dures à supporter. Des valeurs qui étaient non négociables. Et la religion faisait partie de ces valeurs. La religion, elle aussi, a proposé des ouvertures. Puis un certain temps, on va poser comme ça un peu symboliquement un mai 68 qui nous propose un interdit d'interdire. Mais ce changement du mai 68 en France correspond finalement à un changement assez généralisé dans les pays occidentaux. Un changement qui est passé d'une valeur qui était de la frustration et de l'effort, d'une valeur dont tu peux y arriver si tu y mets le tien. Si tu veux, tu peux. Mais avec en sous-entendu l'effort et le travail. À aujourd'hui, une société où, si tu veux, tu peux, est devenue magique. On l'entend un petit peu partout, dans la psychologie de magazine, dans les systèmes de coaching, dans le vocabulaire utilisé, travaillez votre estime de vous-même, ayez confiance en vous, si vous voulez, vous allez y arriver, soyez des gagnants, ne soyez pas des perdants. Si tu veux, tu peux. Voilà. Et donc, avec un changement au niveau de l'entendement, c'est-à-dire qu'on est passé d'une compréhension de cette phrase qui passait par l'effort et le travail à une compréhension magique. Si tu veux, si tu as le désir de manière magique, eh bien, ça va se réaliser. Quelque part, L'Oréal, parce que tu le vaux bien. Et là, cette illusion, cette société un peu magique, elle est présente pour les adultes aussi. On la propose aux enfants, mais c'est à partir de nous adultes qu'on la propose. Alors, si je vais entrer encore dans un autre domaine, on est passé un petit peu par la sociologie, je vais faire un petit pas de côté vers l'économie. Et on va trouver, au niveau économique, un changement autour des années 70. Autour des années 70, nous sommes entrés dans une nouvelle ère capitaliste. Le capitalisme, ça fait longtemps que ça existe, mais on a ouvert cette théorie-là à, à une zone, c'est ça qui gère. La théorie du capitalisme, pour en faire un tout petit résumé, c'est une théorie assez intéressante qui parle de comme si la main de Dieu faisait que nos pires travers faisaient que la répartition de l'argent allait se faire de manière finalement juste. Que finalement notre égoïsme à chacun fera qu'on répartira. En ouvrant encore plus cette théorie, on a proposé aux individus d'être de plus en plus égoïste, comme étant un modèle. Alors c'est un modèle médiatique, c'est un modèle qu'on va trouver dans toute la société à plusieurs niveaux. J'ai parlé de pub, on va trouver au niveau de nos émissions, au niveau de nos journaux, et aussi au niveau de nos théories, par exemple les théories psychologiques, aujourd'hui, ont changé. Aller creuser dans le passé pour aller essayer de faire un peu le tri et d'utiliser autrement nos cartes, c'est dépassé. Le passé, on va le mettre de côté pour aller uniquement vers l'avenir avec ce qu'on a, aller en s'habituant à autre chose, parce qu'on est censé pouvoir y arriver comme ça. L'économie est basée sur l'idée qu'il s'agit de combler le manque. Par rapport à la psychologie, où je disais que le manque est ce qui va nous permettre de désirer, au niveau de l'économie, on comble. On comble. Dès qu'on a un désir, il faut qu'il soit comblé par de la consommation. Comme le désir n'est jamais comblé, c'est censé être quelque chose qui fructifie. Et donc, on nous propose de plus en plus l'illusion qu'avec telle ou telle chose, on va pouvoir combler. Les outils, les nouveautés qui arrivent sont correspondantes à cet idéal. Le téléphone portable, Internet, les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter. Toute la société est en train d'aller vers là. Alors, quand Freud parle de cette période de la petite enfance, où petit à petit l'enfance apprend à gérer sa toute-puissance, il parle pour l'enfant d'un pervers polymorphe. Finalement, que toutes les perversions vont être testées avant qu'elles soient limitées. Mais notre société met en avant, comme nouveau modèle, toutes les perversions qu'on était censé dompter pendant l'enfance. Les perversions, ça va être le sadisme, le masochisme, ça va être le voyeurisme, l'exhibitionnisme, le fétichisme. Toute chose que quand on allume sa télévision, c'est devenu d'une banalité de voir une émission de télé-réalité où on entre comme des voyeurs dans l'intimité d'autres personnes. Il existait une émission, mais c'est le summum de celle que j'ai vue, qui s'appelait Le maillon faible, où l'humiliation de l'autre était une valeur. Mais ça n'est pas la seule. Dans des petites émissions où aujourd'hui on simplement on interview une personne, un petit peu d'humiliation visiblement ça plaît. Alors c'est sûr que la perversion ça plaît et on en a tous encore un petit peu en nous, mais on l'a dompté. Mais aujourd'hui on nous en propose une débridée et on y a affaire sans cesse. Et nos jeunes bien sûr aussi. On est dans cette société où il faut qu'on soit satisfait, satisfait tout de suite. Ou si je suis au supermarché, que j'hésite entre les petits pois et les haricots, je prends mon téléphone portable et je dis « Allô chérie, qu'est-ce que tu préfères ?» Parce que maintenant, tout de suite, je veux être en lien. Parce que maintenant, tout de suite et sans attendre, je veux avoir la réponse. Et si ça ne répond pas, finalement, j'ai une certaine colère en me disant « Mais il y a pourtant un portable pour répondre. » Alors comment proposer dans une société où c'est tout de suite, proposer à l'enfant d'attendre, proposer à l'enfant d'être frustré et de le supporter. Comment quand à table, parce que c'est important, on décroche notre portable et on prépare une conversation professionnelle. Parce que c'est important. On va couper la relation et on va répondre à l'adulte tout de suite. Comment, quand on fait des prêts à la consommation pour acheter son nouveau canapé, au lieu d'économiser quelques mois pour en avoir l'argent, comment est-ce qu'on peut expliquer à l'enfant qu'on ne va pas lui acheter tout de suite sa DS, son nouveau jeu, sa sucette. Comment quand on le fait pour soi-même? Il s'agirait pour l'enfant comme pour vous d'être heureux, comblé. Une société où vous avez l'obligation, le devoir du bonheur. Quand quelqu'un est en deuil aujourd'hui, combien de temps acceptons-nous qu'il soit triste? Si ça n'est pas réglé en 2 mois, il faut l'envoyer chez le psy. Alors que la tristesse fait partie de l'humain, fait partie de son humanité. Mais notre société ne veut plus en entendre parler. Alors le choix de frustrer l'enfant, ça va devoir être un choix éducatif, porté, voulu, parlé en couple. Parce que c'est presque aujourd'hui une position de résistant. Le résistant face à une vague une vague de la jouissance immédiate. Quand votre enfant va entrer en sixième, début de la sixième, 50% à peu près de la classe, ou pour nous, j'exagère, 30% de la classe aura un téléphone portable. À Noël, plus que ça. Alors, ça change la vie en année. Je dirais qu'à Noël, on passera au double. Fin de l'année, pendant les vacances, on arrivera peut-être à 80% d'enfants avec un téléphone portable. En cinquième, ils sont encore trois dans la classe à ne pas en avoir. Et alors en troisième, les deux trois de l'école qui n'en ont pas seront des dinosaures. Il s'agira que ces enfants qui sont des dinosaures aient les armes, aient suffisamment de force en eux, un noix suffisamment fort, comme on l'a entendu tout à l'heure, pour se positionner. Ils pourront bien sûr utiliser, mes parents sont des vieux cons, ils sont vraiment trop à l'ouest. Voilà, ça, ce serait une très bonne technique. Mais suite à ça, il leur faudra des armes de narcissisme suffisamment établies, sans qu'il n'y ait que ça, pour affronter les autres, pour affronter leur adolescence et ce rapport à l'autre où ils vont devoir justifier de leur particularité. Donc ce choix qu'on fait en famille, je vais donner sur l'exemple du téléphone portable parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu... une image qui peut parler. Si on fait ce choix, il faut le discuter avec l'enfant. Il faut le poser en couple et pouvoir donner les armes à l'enfant pour qu'il aille en société avec. Ça ne sera pas construit, ça ne voudra pas dire qu'on a un mauvais parent si on cède à un moment. Selon le cas, ce sera justifié. Mais le choix éducatif implique d'autres choses aujourd'hui où éduquer un enfant est plus rare qu'il y a une petite trentaine d'années. La question se posera de la même manière en maternelle où ce qu'il a dit aux enfants c'est si on t'embête, tu te défends par rapport à ce qu'il voulait se dire avant, à l'école, tu ne tapes pas. J'étais hier avec une équipe éducative dans une maternelle et elle disait que finalement, face à une bagarre, quand elles intervenaient, elles grondaient les enfants. Elles posaient un nom à la violence. Et que là, pour les parents, c'était insupportable que l'enfant vienne en disant « J'ai été puni parce qu'il y a eu une dispute et c'était pas moi qui ai commencé. » Le parent ne supporte plus. Nous avons un besoin de protéger, de surprotéger notre enfant. Alors on en vient à quelque chose de l'ordre de l'autonomie. Toutes ces questions d'éducation amènent aussi à... J'ai pas compris. Une seconde. Aujourd'hui, on l'enlève petit à petit dès le premier âge à l'enfant. On souhaite absolument que cet enfant qui nous est précieux ne s'abîme pas et ne rencontre aucun souci dans sa vie, ni de lui-même, ni avec les autres. Je vais donner l'exemple du toboggan, où là, l'enfant va le protéger lui-même en oubliant des fois de lui apprendre à user son corps. Et on va le voir après, les profs de sport en collège vont dire que les enfants d'aujourd'hui sont bien plus bateaux que ceux d'il y a quelques années. Ils n'ont pas appris à être autonomes dans leur corps. On les en a empêchés en voulant les protéger. Plus tard, dans l'apprentissage de la relation aux autres, on va les empêcher d'entrer en conflit. On va essayer de les empêcher de régler par eux-mêmes quelque chose du rapport à l'autre. En intervenant, et là encore, en les surprotégeant, et en écoutant absolument au pied de la lettre ce qu'ils nous disent. Parce qu'il s'agit d'écouter les enfants. Mais un enfant qui dit « je n'ai pas commencé », on n'a pas à l'écouter au pied de la lettre. On a à lui redonner des valeurs. Des valeurs auxquelles on croit. Et de la même manière, à l'adolescence, où petit à petit, l'enfant va avoir besoin de se confronter à ses pairs, à ceux de son âge, et avoir petit à petit de l'autonomie, plus de liberté. Or, nombre de parents préfèrent voir leurs jeunes, leurs ados, devant un écran d'ordinateur que dehors avec des amis. Quand vous étiez enfant, faire un tour en vélo en bande de jeunes, c'était quelque chose qui se faisait. Aujourd'hui, c'est dangereux. C'est du moins notre imaginaire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger. Hein. Les adolescents ont toujours essayé d'aller chercher le risque. Il y a 50 ans, ils allaient en forêt, ils faisaient un petit feu dans un arbre creux, et puis voilà. Aujourd'hui, les pompiers de l'immeuble font un petit feu dans une boîte aux lettres. Ça fait partie des prises de risque de nos ados. Alors, plus ils ont été construits, puisqu'ils auront un minimum conscience de limites à ne pas dépasser. Mais ça n'empêchera pas un enfant très construit de faire une bêtise de ce type. On en est encore là à l'adolescence. Aucune conscience de l'après. Ce matin, déjà abordé un peu la moitié de ce que je voulais vous présenter. Je vais faire un peu plus vite.
Pourquoi on pense que c'est dangereux de faire un tour en vélo maintenant? Pourquoi c'est rentré dans l'imaginaire?
Alors, c'est rentré dans l'imaginaire, il y a eu plusieurs éléments hein, sur le changement de la société. On a d'abord eu des lois, une prise de conscience des droits de l'enfant, des dangers que l'enfant pouvait courir, et aussi un enfant qui est devenu plus précieux. La mortalité enfant-infantile est quelque chose qui était très fréquente et qui n'existe quasiment plus, par exemple. Donc avoir plusieurs enfants parce qu'il fallait prévoir que tous ne survivraient pas, c'est quelque chose qui n'existe plus. On a un enfant parce qu'on l'a voulu, il est unique, il est désiré, il a une place qui n'est pas une place... dont il est censé partir. Hein, mais aussi le nombre plus restreint d'enfants par famille. Chaque enfant est un bien précieux. Donc ça, c'est beaucoup lié à la maîtrise hein, au niveau de la médecine, de la mortalité infantile, et aussi à la maîtrise des naissances. Le fait que l'enfant est beaucoup plus précieux. Après, il y a des lois qui sont très positives sur le droit de l'enfant, qui sont arrivés et qui, hélas, aujourd'hui vont un petit peu trop loin. Hein, par exemple, il y a des cubes actuels par rapport à la fessée, des choses comme ça, parce qu'on va vers une interdiction de la fessée. Et ces lois, autant elles sont bonnes, mais autant elles n'ont été communiquées sur l'un de leurs versants, le versant protection de l'enfance du côté de la maltraitance. Et elles n'ont pas été médiatisées du côté protection de l'enfant, du côté d'un droit à l'éducation, qui est aussi hein, dans la loi. Dans la loi, l'enfant a droit à une éducation. Mais ce qu'on en communique, c'est les dangers qu'il pourrait avoir, qu'il pourrait subir de la part d'adultes. Donc toute cette prise de conscience a amené un regard sur les dangers pour l'enfant qui a complètement basculé à l'inverse. Autant l'adulte, il y a encore 50 ans, avait tout le pouvoir sur l'enfant, autant aujourd'hui, l'adulte est un coupable de sévices faits à l'enfant potentiel. Tout instituteur doit faire attention aujourd'hui à ses actes, parce que c'est vite arrivé qu'on le soupçonne. Aujourd'hui, quand il y a un divorce, très rapidement, et même sans mauvaise volonté, madame pourra avoir peur que monsieur soit pédophile. Et on le voit dans les consultations. Alors que la pédophilie est rare, elle a toujours existé, il y en a peut-être un tout petit peu plus aujourd'hui de par voilà, des changements de société où on ouvre plus à la perversion, mais elle est rare. Tout homme n'a pas un désir pour des enfants populaires, de loin pas. Mais dans nos imaginaires, on soupçonne tout adulte d'être potentiellement maltraitant. Et si vous allez au supermarché avec votre enfant, qui fait un caprice, plutôt une colère, qui est un mot que je préfère, par rapport à quel bonbon, vous aurez tous les regards qui se dirigeront vers vous, des regards en général accusateurs, qui vous diront « Vous êtes un mauvais parent. » Donc le parent s'est retrouvé délégitimé dans sa place. On a aussi, au niveau du social, plus de surveillance du parent. Une surveillance qui a été accrue. Des accusations aussi, hein, des lois qui sont tombées, ou il y a des assistantes sociales qui ont été condamnées parce qu'elles n'avaient pas vu. Parce qu'on serait censé tout voir, tout prévenir. Oui.
Pouvez-vous parler des avantages et inconvénients, des possibilités de choix de nos petits enfants, choix de tel aliment, choix de telle activité, choix de telle place à table?
J'ai pas entendu le premier choix.
Le choix de tel aliment, ça va, tu veux le ceci ou tu veux le cela, à 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, 6 ans.
Alors, je pense qu'il y a plusieurs types de noms. Il y a les noms indiscutables, les noms vitaux, les noms, quand on les dit, tout le monde sursaute, parce que notre voix est bien. Et il y a les noms qui dépendent de notre culture familiale, de notre culture d'appartenance. Et les noms dont vous parlez là, par exemple le choix d'aliments, ça va être un nom, un choix familial. Pour l'enfant, je dirais qu'il est bon de ne pas faire du forçage sur son corps, quand on touche au corps. Or la nourriture, voilà, vient toucher au corps. Donc de laisser un enfant devant un aliment et de lui essayer d'y forcer, on n'obtiendra qu'un dégoût alimentaire là-dessus. Par contre, d'imposer quelque chose de l'ordre du respect de ce qui a été fait, donc du minimum qui est de goûter, ou voilà, porter sur quelque chose qui a avoir plus avec l'autre, le respect, la société, l'être dans le monde. Mais là, je pense qu'on est plus dans des règles et des transmissions de valeurs. Et je ne pense pas qu'il y ait de recettes. Parce que quand on regarde ce qui est autorisé ici par rapport à ce qui est autorisé au Japon, on verra que l'enfant peut se structurer très bien avec des interdits totalement et des règles totalement opposées. Donc c'est un peu un habillage. Après, il y a les noms essentiels. Je dirais, non, tu ne t'abîmeras pas ton corps. Donc un enfant qui refuse absolument de manger, par exemple, on ne va pas pouvoir être d'accord. Un enfant qui se laisse aller à un refus total alimentaire. après, comment ne pas être d'accord? Je dirais, quand on a, par exemple, une opposition totale sur l'aliment, il serait intéressant de ne pas être d'accord pour aussi d'autres raisons qu'uniquement le bien-être de l'enfant. De se décentrer de lui. Il a besoin de ne pas avoir que des choix. Il peut de temps en temps avoir un choix, ça lui apprend aussi quelque chose, mais il a besoin que des choses lui soient données telles quelles, et ça va lui permettre de s'y opposer. Parce que ça lui est donné, posé, son négociation, il va alors pouvoir dire aussi à un moment, non, de ça je n'en veux pas. Alors que si on lui pose à chaque fois le choix, il est perdu dans son être. Il se retrouve avec des parents serviteurs qui ne sont pas à leur place. À leur place de parents. Donc effectivement, du choix, pourquoi pas, un petit peu, mais en fonction de l'âge. Pour un tout petit, de lui demander « Est-ce que tu veux le petit pot aux tomates ou celui aux haricots ?» Ça ne rime à rien. À rien du tout. On lui donne. Et puis selon là, s'il n'aime pas, on le verra bien parce qu'il va crachouiller. On en aura partout. Et c'est pas pour autant qu'on ira chercher notre petit pot. On peut s'y poser que voilà, ça a une valeur, ça, c'est de la nourriture. On peut avoir envie de transmettre ces valeurs-là. Comme on peut ne pas avoir envie de les transmettre. Du coup, ça. Ça permet aussi ces questions de revenir sur la question de ces différents noms. On ne va pas poser le nom de la même manière qu'il s'agisse d'une question vitale ou pas. Sauf que des fois, on ne le fait plus. Et on a du mal à poser un nom qui vienne du ventre, quasiment. Un nom qui s'entende. Un nom qui fasse bruit autour et qui, selon le cas, fasse sursauter les voisins. Ces noms-là, c'est les noms de sécurité vitale de l'enfant. C'est les noms des lois qu'on a entendu parler ce matin. L'interdit du cannibalisme, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste. Là, on va avoir à poser des noms qui ne sont pas négociables. À côté, toutes ces petites règles qu'on transmet, toutes ces petites. Ou ces valeurs auxquelles on croit des fois et qui deviennent vitales, et puis ce sera négociable quand même. Selon l'âge, l'enfant va pouvoir venir nous titiller là-dessus, ça va être des domaines de négociation, des domaines où l'enfant va pouvoir apprendre à chercher à travailler son désir à travers ces questions-là. Jusqu'à quelle heure j'ai le droit de sortir? Si on n'a pas posé de limite, il n'y aura pas moyen de se confronter et d'essayer d'avoir plus. Alors que si on a posé une limite, voilà, là tu as le droit de sortir jusqu'à 10 heures, voilà, l'enfant va pouvoir essayer de chercher à avoir mieux, à aller plus loin. Il pourra y avoir du conflit et il va pouvoir y avoir de la négociation. Apprendre à faire avec les limites. Apprendre à aussi essayer d'obtenir sur les choses négociables un mieux dans son existence. Cette confrontation, quand on parlait d'estime de soi, ça permet aussi à l'enfant de prendre confiance dans ses capacités. Et à côté, si on a bien posé les limites de l'impossible et les limites de la société, alors l'enfant sera bien dans ses baskets parce qu'il aura accepter qu'il y a un cadre et que dans ce cadre, on a une liberté. Cette liberté n'allant pas sans responsabilité. Parce qu'à partir du moment où on pose un cadre, à l'intérieur de ce cadre, il s'agit de faire des choix. Des choix qui auront des conséquences et de les assumer. Donc de poser des limites va aussi permettre aux jeunes de faire l'expérimentation de faire des choix pour sa vie et d'en subir les conséquences. Par exemple, de faire le choix de ne pas faire ses devoirs et d'aller à l'école le lendemain sans que maman ou papa vite ait fait le devoir à sa place. Et donc de subir les conséquences et selon le cas de les assumer. Et de décider pour la fois prochaine, peut-être de faire ses devoirs ou peut-être de trouver une autre solution. Mais finalement d'assumer, on ne pallie pas l'oubli de l'enfant. On le laisse faire ses expériences. Et c'est pas grave s'il se fait gronder par la maîtresse. Ça lui apprendra qu'il y a des choses qui sont demandées et qu'il doit respecter, sinon, voilà, il en assume quelque chose. Et ça, c'est d'être petit. Il s'agit d'assumer les conséquences de ses actes. On peut peut-être venir dans le temps qui nous reste sur la question de la punition. Parce qu'à partir du moment où on dit non, il est question en général d'un non, je ne vais pas du tout être écouté. Vous dites non une première fois, deuxième fois, votre enfant il continue quand même à aller manger la terre du pot de fleurs. Donc à un moment, on réagit. Alors quand on est à l'exemple du pot de fleurs, je dirais que là on va enlever l'objet convoité. L'enfant n'a pas encore la capacité d'entendre quelque chose de l'ordre de la punition. On ne va pas donner une fessée à un enfant d'un an, de 6 mois. Ça n'aura pas de sens. À 6 mois, jusqu'à 9 mois, on a vu que l'enfant, finalement, il n'est pas encore unifié, il ne sait même pas encore qu'il est lui-même. Donc, cette question-là de la punition, elle va venir à partir de d'un an et demi, 2 ans, surtout entre 3 et 4. Hein, quand là, l'enfant, il ne dit pas juste non, non, non à tout. Hein. À 2 ans, l'enfant dit encore non, 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 tu veux un yaourt, non. Et puis finalement, lui, il y a un yaourt, il le mange. C'est le début, l'opposition. Il n'y a pas encore vraiment de punition à poser. Il a dit non pour dire j'existe. Mais après, l'opposition, elle va de tout le désir de l'enfant. Il emmène toutes ses pulsions avec. C'est qu'il, quand il fait quelque chose, il se bat de tout son être pour l'obtenir. Et donc là, notre nom, il ne va pas tenir du tout. On l'aura posé, on l'aura posé 50 fois, ça continuera quand même. Donc à un moment, on va mettre une limite. On peut mettre une limite corporelle. Un enfant qui est pris dans l'explosion de ses pulsions, qui est pris dedans, on peut le tenir. Combien je vois de parents qui se font taper dessus par un tout petit et qui ne pensent même pas à tenir cette main. Non, tu me tapes, mais tu peux tenir. À 3 ans, on peut tenir. À 15 ans, on ne pourra plus. Donc à 3 ans, on va tenir cette main et on va dire, on va poser fermement que maintenant, tu ne me tapes pas. Ça ne fait pas forcément mal à l'enfant de le tenir fermement. On n'aura pas une souffrance corporelle. Quand un enfant se roule par terre, on peut pareillement le tenir dans ses bras, contenir, venir faire contenant de cette explosion. Mettre un stop physique. Alors l'interdiction de la fessée, la fessée est à quelque part un échec éducatif, on pourrait s'en passer. Mais de là à l'interdire, que le parent ait le droit d'être humain, et que s'il y a un moment, alors qu'il n'en peut plus, il utilise ces techniques, mais je dirais pourquoi pas. Ça fait partie de sa légitimité de parent d'un moment touché aussi au corps de l'enfant, dans une limite de l'éducation. On sent que ce soit une décharge pulsionnelle du parent sur l'enfant. Mais qu'à un moment, ces limites puissent être posées. Alors on a toutes ces limites corporelles qui vont de tenir la main, pourquoi pas, la fessée, tant que c'est pas interdit, j'ose le dire, que si un enfant a eu 3 fessées dans sa vie, ça ne sera pas forcément traumatisant et déjà beaucoup moins que des techniques utilisant l'humiliation, la manipulation pour voir apparaître aussi, pour éviter les conflits. Une humiliation verbale fait bien plus mal qu'une fessée qui a été prévenu et qui est éducatif. Ensuite, on a les punitions. On a les punitions positives, les punitions négatives. Hein? Enlever l'objet, c'est le démarrage de la punition négative. On retire quelque chose. C'est tous les héritiers de tu seras privé de dessert. Alors dans ces punitions négatives, on a un choix énorme, mais autant enlever quelque chose qui est un plaisir fermé sur soi-même, un autistique comme la télé. Autant enlever quelque chose qui n'est pas riche, même si la télé des fois est riche, hein, mais c'est surtout quelque chose d'un plaisir autistique, où on se fait juste plaisir à soi-même, et où après quand on en sort, finalement revenir avec les autres, c'est pas évident. Mais ça, c'est encore laissé au choix voilà, de chacun, quoi. Chacun dans son éducation. Donc la punition négative, hein, c'est enlever quelque chose. Ça peut aussi être de demander, d'imposer à l'enfant un temps où il va se poser quelque part. L'ancien va dans ta chambre. Il y a des écoles qui utilisent cette technique en disant à l'enfant, tant que tu n'es pas calmé, tu resteras sur cette chaise. C'est aussi donner à l'enfant la possibilité de se retrouver, de regérer tout ce qui le dépasse. C'est lui donner un contenant, un moment de lui dire d'aller apaiser tout ça. Et des fois tout seul. Et pourquoi pas si dans sa chambre, on l'a autorisé à jeter ses bidoux dans tous les coins. Voilà, qui est une décharge, pourquoi pas. Mais par contre, qui n'aille pas dévaster votre bureau, parce que ça vous appartient. La punition positive, est-ce qu'il est un ajout, est-ce qu'il est une récompense? Ce qui vient dire, tu as été très agréable, tu as été bien poli, eh bien, tu aurais une récompense pour ça. Je dirais que toutes ces techniques et toutes les techniques autres que vous avez en tant qu'éducateur sont positives, si ça n'est pas que l'une des techniques utilisées sans arrêt. Hein, j'ai vu des éducations où la seule technique utilisée était de détourner l'attention. Ce qu'on peut faire, nous sommes des parents, nous ne sommes pas parfaits, nous n'utilisons pas toujours la meilleure des techniques. Donc détourner l'attention, l'enfant demande quelque chose, on lui détourne l'attention, il le demande, puis il l'a oublié. Ça marche, c'est fantastique. Par contre, si on ne fait plus que ça, c'est de la manipulation. Si on ne fait que de la punition positive, c'est que finalement on achète l'enfant, on achète son comportement. Alors que de mettre un petit peu de tout ça, de varier les choses, de varier les lignes, on permet à l'enfant d'avoir quelque chose d'un peu libre.
Quelle différence faites-vous entre la fessée et la gifle?
Une différence médicale, hein. C'est-à-dire que la gifle, déjà la gifle est en général beaucoup plus une explosion pulsionnelle du parent, elle part toute seule, tandis que la fessée, on a eu le temps de remarquer, tiens, j'en peux plus, je ne supporte plus ce comportement-là, et on a le temps un petit peu de dire, de prévenir l'enfant, attention, si tu ne t'arrêtes pas, tu vas avoir une fessée, alors que la caca, elle part toute seule en général. Donc c'est souvent pour nous adultes, c'est plus éducatif, hein, parce que ça n'est pas une décharge, on a eu le temps de se calmer rien que d'y penser qu'on allait proposer ça à l'enfant. Ensuite, d'un point de vue médical, la gifle elle peut créer des soucis, on peut casser un tympan si la gifle part trop fort, au niveau du corps, les fesses sont quand même ce qui prend le moins, puis se rembourrer. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà vu?